CONU, le collectif des déboulonneurs. Nous allons passer tout de suite un premier reportage d'une action qui a eu lieu à Paris au mois de novembre 2005, boulevard Montmartre. Ensuite, nous passerons à une autre action non-violente de désobéissance civile à Rouen au mois de janvier. Et malheureusement, l'appareil, notre DNP, comme on dit, CD en anglais, sur Montpellier ne passe pas. On aurait bien aimé vous montrer le barbouillage qui a eu lieu à Montpellier, suite à quoi deux d'entre nous ont été arrêtés et pas sans procès. Donc il n'y a pas le reportage sur Montpellier, mais les deux premiers vont vous donner une très bonne impression de ce que nous faisons maintenant tous les mois.
Paris.
D'être venus si nombreux et si nombreuses, nous n'existons pas sans vous. Le système publicitaire est beaucoup plus putassier qu'il en a l'air. Il ne faut pas oublier que les médias qui façonnent la société, qui rendent tributaires les politiciens, sont tributaires eux-mêmes du système publicitaire. Ça veut dire que la publicité bâillonne les médias.
Oui,
le système publicitaire empêche toute critique de celui-ci puisqu'il finance les télévisions, les radios, la presse et que donc aucun des aspects de la société, aucun des aspects industriels de notre société de consommation et de production ne peut être critiqué puisqu'on ne mord pas la main qui nous nourrit.
On va rentrer chez soi maintenant. On va oublier sa creuse, on a faim. Donc, vous écartez ce micro et les barbouilleurs vont au bout du trottoir. Si un policier dit bonjour, soit ils les arrêtent, soit nous retournons chez nous. La manifestation non déclarée est dissoute.
Décor totalitaire, du matin jusqu'au soir. Monsieur le Président, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vue de tous les gens. Pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais barbouiller.
Nous passons maintenant à un deuxième reportage suite à une action qui a eu lieu à Rouen le 28 janvier 2006. C'est un reportage FR3 qui est passé à 19h. Le voici.
Bonsoir, le commando des déboulonneurs de pub a sévi aujourd'hui à Mont-Saint-Aignan, un collectif non violent qui ne vandalise pas mais barbouille des panneaux. La police est malgré tout intervenue. Il n'y a pas que la Normande, la charolaise représente à présent une vache sur deux dans les étables de l'Eure, porte ouverte aujourd'hui dans les fermes. Internet pour les sourds, pas si simple, un logiciel qui associe la langue des signes a été présenté aujourd'hui pour la première fois au Havre. Et puis, découverte ce soir au musée des Templiers à Côtebec-en-Caux, une franco-américaine essaye de sauver ses collections. Il y a trop de publicité, les militants anti-pub parlent même d'une véritable pollution. Ce matin à Mont-Saint-Aignan, une vingtaine d'entre eux sont passés à l'action. Ils souhaitent en fait ardemment être arrêtés par la police et comparaître un jour devant un tribunal pour faire le procès de la publicité. Pierre Duval, Stéphane Lott.
Vous êtes face à un panneau publicitaire déroulant. Il vient de subir un barbouillage. L'auteur de cette dégradation revendique sa responsabilité devant la police et les tribunaux. Il s'agit d'un acte non violent de désobéissance civile. Telle est en substance la nature des tracts distribués sur la voie publique aux automobilistes et aux passants par le collectif rouennais des déboulonneurs. Et sur un appel téléphonique d'une cabine publique, l'un des membres du collectif a localisé le panneau publicitaire à l'attention de la police, qui s'est rendu sur les lieux pour vérifier les identités des trublions et par là même celle de notre caméraman.
Chaque quatrième vendredi ou samedi ou dimanche de chaque mois, je barbouille et je souhaite me faire arrêter par la police parce que je suis responsable d'actes que je commets devant la police et devant les tribunaux. Nous pensons qu'il est utile de changer la loi sur l'affichage et c'est pourquoi nous réclamons en France l'affichage 50 par 70 cm.
50 sur 70, on serait donc très loin des panneaux publicitaires de 4 mètres sur 3.
Je sais qu'il y a plusieurs associations par contre en France qui se mobilisent, dont une association qui s'appelle Paysages de France et qui fait régulièrement des actions pour dénoncer l'installation de certains panneaux qui sont installés de manière illégale.
Et le barbouilleur, François Vaillant, veut être arrêté par la police afin de lui permettre de procéder à une déposition enclenchant la machine judiciaire.
L'affichage est responsable en partie du surendettement, de l'obésité des jeunes, de beaucoup de frustration. Et vous avez souvent vu le sexisme aussi. Donc lutter contre la publicité aujourd'hui, c'est être moderne et vouloir changer la loi, c'est être non violent.
Un défi pour retrouver une image vraie, celle de l'authenticité, absente de toute pollution.
Et puis le porte-parole donc de ce commando a été gardé pendant 3 heures au poste de police à Rouen. Il a été ensuite libéré. La viande bovine a retrouvé...
Stop. Ce que le reportage ne dit pas, c'est qu'il faisait moins 3 quand nous avons fait l'action. Voilà, malheureusement, on n'a pas le reportage sur Montpellier. Sachez que nous en avons d'autres sur Le Mans, sur Lyon, sur d'autres villes. On ne va pas tout projeter. C'est suffisant comme cela. Maintenant, avant de vous laisser la parole, puisque vous êtes venu pour cela, et d'entendre vos questions, on voudrait vous présenter quand même brièvement qu'est-ce que le collectif des déboulonneurs.
Non, pas trop près.
Merci. Oui, donc le collectif des déboulonneurs, donc c'est un ensemble de personnes qui ont décidé de s'activer pour faire tomber la publicité de son piédestal, c'est-à-dire la déboulonner. C'est la raison du nom, c'est la raison du choix de ce nom. Donc c'est une organisation pour faire des actions de désobéissance civile contre le système publicitaire, notamment en s'attaquant à l'affichage. À l'affichage, donc, nous avons une revendication qui est précise, avec un objectif donc qui est limité, qui est atteignable, qui est celui de demander une taille maximale d'affichage de 50 cm par 70 cm. C'est un objectif qui est raisonnable puisque ça correspond à la taille de l'affichage associatif ou politique à Paris, par exemple. Donc, comment est-ce que nous procédons ? Nous faisons des dégradations. Des dégradations réelles, bien que légères, mais réelles, dans le but donc de faire une transgression et dans le but d'avoir des procès pour pouvoir effectivement faire le procès de la publicité, pour pouvoir aborder la problématique de la publicité et du système publicitaire. Donc c'est une action qui se passe au niveau national. Il y a des collectifs qui sont dans différentes villes partout en France. Donc comme on l'a dit, à Paris, à Montpellier, à Rouen, mais aussi au Mans, également à Lyon. Il y a d'autres villes qui sont sur les rails ou qui nous soutiennent. Donc on peut citer Montauban, on peut citer Lille, on peut citer Brest, et il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes de monter des collectifs un petit peu partout en France. Voilà, je vais essayer d'être bref parce qu'on aura l'occasion de répondre à d'autres questions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une action non violente, c'est une action de dégradation, qu'on revendique le 50 cm par 70 cm, que c'est une action qui se répétera nationalement tous les 4e vendredi du mois, ou samedi et dimanche suivant. Voilà.
Voici l'instrument du délit, ce sont des bombes. Alors comme vous êtes venus nous rencontrer, nous pensons que le mieux c'est que nous présentions à vous avec nos bombes à la main. Alors nous avons fait une petite mise en scène avec des photos. Alors on va commencer par une photo où il y aura les 5 membres fondateurs du collectif des déboulonneurs et les 2 prévenus de Montpellier, puis que les 5 fondateurs. Ce sont des photos qui vendront très cher dans quelques temps. Et les 2 prévenus tout seuls. Donc, nous allons avec nos bombes, ici, nous nous rassemblons. Je vous signale que c'est la première fois que nous sommes ensemble, de cette manière-là. Donc, ce sont des photos qui font partie de l'histoire. Et nous sommes heureux que ce soit au cap qu'elles soient prises. Donc, si vous voulez des photos des barbouilleurs, du collectif des barbouilleurs, c'est maintenant. Voilà, donc nous sommes tous les 7.
Maintenant, on appuie sur le bouton.
Et on appuie sur le bouton.
Vous, hein, pas nous.
Voilà, merci, bravo. Et maintenant, les 5 fondateurs du collectif des boulonneurs, les voici. Donc, les prénoms, les noms, vous les connaissez, vous les retrouverez. Et ça s'agit de comment ? C'est comme ça qu'on peut dire ? Allez, là. Ah, oui, ça y est. Ah, c'est pas mal, oui, tout à fait. Voilà, donc, ça suffit ? Maintenant, les 2 prévenus, on vous laisse la place, chers amis.
Ouais, bon, bah, c'est la dernière fois que vous nous voyez.
Oui, surtout que vous venez pas très souvent à Paris, n'est-ce pas ?
Non, pas trop.
Vous venez de Montpellier, c'est en Languedoc, c'est très loin. Alors, on va regagner nos places.
Avec aisance.
Et maintenant que nous avons l'image, vous allez avoir le texte. Chacun d'entre nous, pas forcément dans l'ordre de la table, va se présenter.
Allez. Donc, je m'appelle Alex Barret. Je suis partisan de la non-violence active depuis assez longtemps. Je suis militant anti-publicitaire depuis 1997. Où j'ai rejoint l'association qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire. C'est là où j'ai pu faire mes armes non violentes contre la publicité, me favoriser à différentes problématiques et aux subversions non violentes contre la publicité. Je fais partie des personnes qui ont été interpellées et assignées lors du procès qui a été fait par Metrobus à 62 personnes qui se sont organisées entre elles sous le nom du collectif des 62. Donc c'était au courant de l'automne 2003. C'était des actions assez massives dans le métro à l'automne 2003 donc. Et sinon, je suis également, au-delà de mes activités anti-publicitaires, je suis représentant commercial dans une maison de disques et bon père de famille. Voilà.
Oui, donc je m'appelle Lenoir Jean-François, je viens donc de Montpellier et je suis simplement objecteur de croissance.
On reste à Montpellier. Donc Geoffroy Maguet, bien écrit pour une fois. Apprenti en formation viticole, déboulonneur et autres activités en espérant un jour sauver notre belle planète.
Bonjour, David Sterboul, militant écologiste et anti-publicitaire à Paris.
Bonjour, François Jourde, militant anti-publicitaire, un des membres fondateurs du collectif des déboulonneurs. À travers cette action, Je m'engage en fait à aller jusqu'au bout pour débarrasser notre espace public, notre bien commun, de la lèpre publicitaire. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que j'assumerai mes actes et ça veut dire que je m'engage aussi dans cette action à ne jamais payer un centime aux publicitaires. La justice avisera.
Ça bouge pas, ça. Alors, Yvan Gradis, publiphobe depuis 1981, militant anti-publicitaire, créateur du publiphobe, ancien président de l'association Rap Résistance à l'agression publicitaire, barbouilleur et membre, un des cinq membres fondateurs du collectif des déboulonneurs.
François Vaillant, j'habite Rouen, je suis rédacteur en chef de la revue Alternative Non-Violente, anti-publicitaire depuis longtemps, mais sans l'amitié avec Yvan Gradis et chacun du groupe des collectifs des déboulonneurs, je ne serais jamais devenu un anti-publicitaire prêt à aller jusqu'en prison. Maintenant, nous passons... vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, mais on prépare le terrain pour l'échange. On voudrait... si cela est possible, Jean-François et Geoffroy, que vous nous racontiez l'action de barbouillage où vous avez été arrêté, gardé à vue, et au terme de laquelle vous avez été convoqué pour le tribunal correctionnel le 27 juin à Montpellier.
Donc effectivement, nous avons fait une garde à vue de 18 heures suite à l'action du 25 février 2006 à Montpellier. Nous avons donc barbouillé un panneau de 8 mètres carrés en y accolant une affichette de 50 par 70 tel qui se trouve ici pour illustrer notre propos. Nous avons donc un membre de notre collectif a appelé la police par deux fois, qui est quand même à deux rues. Nous l'avons attendu trois quarts d'heure qu'elle se déplace. N'arrivant pas, nous avons décidé de la dissolution donc de la manifestation. Et c'est au moment de la dissolution, une fois que les médias donc sont partis, et que le public aussi, que la police a commencé à intervenir, interpellant six personnes au hasard qui se trouvaient sur l'endroit. Donc nous, on a été prévenus par un des membres du collectif que la police était en train d'agir, donc avec Geoffroy, nous sommes arrivés à courant avec notre carte d'identité, c'est nous, prenez-nous. Suite à quoi la police nous a pris un peu virulent, en disant, ça vous amusera qu'on tague sur votre porte, là je fais l'accent parce qu'ils avaient l'accent, quoi, donc... Et donc nous, on a bien réfuté le terme « tagué ». Pour nous, c'est pas un tag, c'est bel et bien un barbouillage. On a un message à apporter. Donc on n'est pas de la petite délinquance. Suite à ça, on nous a amené au commissariat et je vais laisser à Geoffroy le soin de vous raconter notre superbe expérience en garde à vue.
Alors, comme Jean-François le soulignait, bon, les policiers sont arrivés assez nerveux. Donc voilà, nous avons eu des menaces, ils voulaient rentrer chez nous et repeindre nos appartements avec les mêmes bombes que nous avions utilisées. Donc ils essayaient par tous les côtés, par tous les moyens de nous faire culpabiliser. Donc, nous avons détérioré un panneau publicitaire, un totem publicitaire. Je m'arrêterai là. Donc nous avons attendu dans un couloir à voir les policiers faire des va-et-vient. On nous a pris notre identité 3 ou 4 fois. Des fois qu'on aurait menti, jusqu'au moment où on a pris nos identités vraiment derrière un bureau. Il y avait beaucoup de tapage, des va-et-vient. On a compris seulement plus tard que c'était le procureur qui était en liaison avec ses policiers. Donc ça a duré un petit peu, on nous a descendu à la cave, au frais, on est dans une région viticole, je vous rappelle. Et ici, on a été séparés, malheureusement. Donc pendant tout un symbole, nous avons été enfermés dans des cellules de 4 par 3. J'ai mesuré, je vous assure, c'est véridique. Donc bon, c'est des endroits que je ne sais pas si vous connaissez, qui sont bien faits pour faire culpabiliser, réfléchir. C'est ce que nous avons fait avec Jean-François à notre sortie. Les premières choses qu'on s'est dit, c'est de revenir sur l'action parce qu'on a pu y réfléchir pendant 18 heures. Bon, je vais aller assez vite quand même. Donc, nous avons fait notre déposition vers 19h.
Notre attitude, ce qu'on a relevé de suite, c'est que notre attitude de nos violences et surtout d'assumer nos actes, ça a très vite détendu l'atmosphère et on a pu vraiment rentrer en communication avec les policiers et même aiguiser leur curiosité. Donc ça, c'est un point qui a été le plus important de cette garde à vue, parce qu'on est ressorti très content de cette expérience et surtout d'avoir été entendu. Bon, avec la modernité approchant, avant de nous lâcher, donc prise d'empreinte normale et prise d'ADN maintenant. Bon, je vous passerai les exemples. Non, je vous passe pas. Ça va vous régaler. Donc pardon. Donc voilà, on m'a dit qu'il fallait qu'ils prennent mes empreintes au cas où un jour je violais quelqu'un et que ce serait plus facile à me retrouver. Donc j'étais enchanté de cet exemple. Au moment de notre sortie, nous avons tendu un papier à signer. Et à notre grande joie, c'était cette fameuse convocation. Donc nous sommes attendus le 27 juin au tribunal correctionnel de Montpellier. Voilà la fête du fin.
Avant de vous passer la parole, Maître François Roux, que vous connaissez au moins de nom, puisque c'est l'avocat de Zacharias Moussaoui, aurait dû être là, puisque c'est l'avocat du collectif des déboulonneurs. Il nous a laissé un message au téléphone tout à l'heure, nous disant que malheureusement il ne pouvait pas venir, pour les raisons que vous savez. François Roux habite Montpellier. Donc c'est merveilleux, parce que notre avocat, qui va plaider le 27 juin pour Jean-François et Geoffroy, habite Montpellier. Et il se fait une joie de plaider à ce procès-là. Et l'une des raisons pour laquelle nous avons voulu organiser cette conférence de presse aujourd'hui, c'est déjà pour vous donner l'information, la faire relayer, parce qu'on fera de plus en plus de pression, en plus des actions que nous allons continuer à faire, parce que bien entendu nous sommes fauchés, ah j'ai oublié de vous dire, mais complètement fauchés. Même cette salle on la paye de nos deniers et de soutien d'amis. Les voyages en train ce sont nos deniers. Donc c'est vrai que le collectif des déboulonneurs ne reçoit aucune subvention d'afficheurs, aucune subvention d'annonceurs, ni d'aucun journal, et cependant l'appel aux dons pour soutenir est très très fondamental pour nous. Qui est François Roux? François Roux habite Montpellier depuis très longtemps de sa famille. C'est l'avocat des objecteurs de conscience dans les années 70, puis des paysans du Larzac, étant lui-même un ami de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, près de Lodève. Le Larzac, qui a été un combat que chacun sait, qui a duré longtemps jusqu'en 1981, puis des faucheurs volontaires depuis quelques années et de différentes causes liées aux droits de l'homme. Quand nous lui avons proposé d'être notre avocat, il a réfléchi combien de secondes, je ne sais pas trop, mais c'était d'abord une embrassade. Il était d'accord immédiatement parce qu'on se connaissait aussi. Donc, ça sera Maître François Roux qui plaidera le 27 juin à Montpellier. Maintenant, messieurs, mesdames, c'est à vous la parole, et 6h15, il est prévu que nous puissions rester à la salle du Cap jusqu'à 19h. Comme nous sommes fauchés, on n'a pas eu les moyens de préparer un pot ici, ça coûte plus cher, et alors on a eu l'idée qu'on aimerait bien vous retrouver à la sortie de la maison de Radio France, donc juste à la sortie, quand vous sortez, il y aura des tréteaux et un apéritif auquel nous nous retrouverons. Ne partons pas sans boire un petit verre, si vous le permettez. Donc maintenant, nous avons 1h15 pour débattre ensemble de tout ce qui nous intéresse.
Tout le monde semble acquis à la cause.
Bon, alors moi je veux bien lancer, parce que une fois n'est pas coutume, en général quand on donne une conférence de presse, c'est pour apporter des réponses. Eh bien moi je vais vous poser une question. Je parle sous le contrôle de mes amis. On ne comprend rien du combat anti-publicitaire et notamment de l'activité du collectif des déboulonneurs si on ne sait pas individuellement et dans son intimité poser la question suivante. Est-ce que ce qu'on appelle officiellement des panneaux publicitaires, c'est-à-dire ces choses, ces bouts de papier sous verre parfois,
qui jonchent le paysage, est-ce que ces images qui font notre quotidien depuis des dizaines d'années ne sont pas profondément des étrons visuels? Vous savez ce que c'est que des étrons. Faut-il choisir des mots plus léchés pour désigner ces choses-là? Gandhi disait que la non-violence, c'est l'amour de la vérité. Donc la première chose, c'est de nommer les choses par leur nom. Nous sommes en France, pour ne parler que de la France, mais la France est un cas particulièrement honteux, mais elle n'est pas le seul, nous sommes environnés du matin au soir, depuis des dizaines d'années, par des étrons. Ça, c'est un état de fait. Si vous répondez à cette question non, ce ne sont pas des étrons visuels, vous ne pouvez rien comprendre à notre combat. Deuxièmement, la question que je vais vous poser, puisque je vais vous poser une question, mais vous n'allez pas répondre, puisque vous n'êtes pas là pour répondre. C'est nous qui sommes là pour répondre. C'est, est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous ferait plaisir de vous réveiller un matin avec tous les panneaux publicitaires de France réduits à 50-70? Ceux d'entre vous qui ont encore un peu d'imagination. Parce que le problème de la publicité, c'est qu'elle ronge, elle grignote notre imagination. Et elle entame la seule possibilité pour nous d'imaginer que la société dans laquelle nous vivons puisse être autrement que ce qu'elle est. Donc ceux parmi vous qui ont encore suffisamment d'imagination, peuvent-ils se figurer que tous les panneaux publicitaires seraient réduits à 50-70? C'est une question d'imagination. Fermez les yeux. Pas maintenant, mais quand vous rentrerez chez vous, imaginez la chose et dites-vous, ça me plaît ou ça me plaît pas. Non, moi, la publicité, j'aime ça. Les panneaux publicitaires, c'est ma lecture quotidienne. Ça égaye les rues, les paysages, etc. Donc, première question à se poser, vous comme nous, mais nous nous la sommes posée depuis longtemps. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça vous ferait plaisir, et j'utilise le mot plaisir parce qu'il faut réhabiliter tout ce qui est de l'ordre de l'affectif et du désir, est-ce que ça vous ferait plaisir un paysage urbain et rural où la publicité serait réduite à 50-70? Si la réponse est non, bah écoutez, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Si la réponse est oui, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que nous sommes ici.
Voilà, pour les questions, il y a un micro-baladeur et je vous remercie de bien vouloir parler dedans parce que ça enregistre, c'est pour les archives. Merci.
Bonjour, moi j'aimerais savoir pourquoi vous ne réclamez pas l'interdiction? Pourquoi des petits panneaux? Pourquoi aucun panneau? Pourquoi pas aucun panneau?
Qui répond?
Il existe un droit fondamental qui est la liberté d'expression. Demander à ce qu'il n'y ait plus du tout de publicité dans l'espace public, ça serait quand même quelque part nier une certaine liberté d'expression des publicitaires. Ils ont le droit, les gens qui ont des choses à vendre ont le droit, dans une certaine mesure, de le dire dans l'espace public, d'en informer vous et moi. Le problème que l'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression s'exerce d'une façon tellement démesurée qu'on en vient au matraquage et qu'elle s'exerce donc aux dépens de notre liberté à nous, de notre droit à nous, de ne pas subir ce matraquage publicitaire dans l'espace public. Voilà pourquoi nous demandons une réduction, une mise à niveau de l'ensemble des dispositifs publicitaires, qu'ils soient purement commerciaux ou d'affichage d'associatif ou d'opinion, à une taille qui permette de les voir dans l'espace public, mais qui permette aussi de ne pas être agressé par leur présence.
50 par 70, la taille n'a pas été choisie au hasard. C'est le format maximal autorisé en vigueur à Paris pour ce qui concerne l'affichage associatif. Et j'apporterai un complément sur notre revendication. Nous souhaitons donc que la taille maximale d'une affiche ne dépasse pas 50 sur 70 cm. Les dispositifs sur lesquels ces affiches peuvent être posées ne doivent pas dépasser 2 mètres carrés. Donc ça, c'est ce qui existe pour l'affichage associatif à Paris. Et la troisième condition, c'est que la densité d'affichage soit limitée Parce que, effectivement, si vous avez 150 affiches de 50 par 70 les unes à côté des autres, ça ne rimerait pas à grand-chose. Donc, la densité d'affichage soit limitée en fonction du nombre d'habitants de la commune dans laquelle on se trouve, tout simplement. Et ce simple objectif limité, réaliste, atteignable, est, à notre sens, pour les afficheurs, un objectif, comment dire, dangereux. Je pense que nous sommes dangereux pour les afficheurs, parce que de proposer une alternative réaliste, ça leur fait peur. On n'est plus sur un mode de contestation pure et simple de la publicité, mais nous proposons des changements radicaux qui sont facilement, peut-être pas facilement, mais qui sont atteignables.
Alors, on a évoqué tout à l'heure Métrobus. Vous pouvez nous parler un peu plus de la réaction des afficheurs, justement. Est-ce que jusqu'ici... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien en savoir plus.
Oui, Métrobus, effectivement, il y a une réaction qui était importante, puisqu'il y a eu des dégradations importantes, massives, et que, selon eux, cela a créé un préjudice en termes financiers et en termes d'image. Donc, il leur était impossible, étant donné les éclaboussures que cela a créées, qu'ils ne réagissent pas. On a essayé de se servir de cette attaque pour pouvoir exposer justement les griefs qu'on avait contre la publicité, contre le système publicitaire et tout ce qui est relié en fait, puisque la publicité n'est qu'un nerf. La publicité, c'est le premier budget mondial devant l'armée, 1200 milliards de dollars annuels. Donc tout est ramifié autour de cette logique marchande et beaucoup des aspects de notre vie découlent de cette logique. La réaction pour l'instant des afficheurs par rapport à notre entreprise collective, celle des Déboulonneurs, est pour l'instant nulle. C'est-à-dire que ils ne se manifestent pas. Les réactions qui ont eu lieu viennent soit de la police qui a constaté un flagrant délit, soit parce qu'elle a été appelée par notre fait, soit parce qu'elle est passée là par hasard et qu'elle a demandé des instructions, mais ça relève plutôt du contrôle d'identité et éventuellement de l'interpellation. Ça a été jusqu'à la garde à vue et donc l'assignation au tribunal correctionnel donc pour nos amis montpelliérains. Mais aujourd'hui, les afficheurs ne se manifestent pas, pour la bonne raison que vient d'évoquer David, à ma gauche, à votre droite, c'est que nous proposons quelque chose qui puisse être suivi aussi bien par des politiques, par les élus, et qui puisse être recevable par l'opinion publique. Donc c'est quelque chose qui est dangereux, puisqu'on peut très bien imaginer que les villes continuent, si c'est leur souhait, pas forcément le nôtre, d'être dépendants financièrement, mais on peut imaginer que les villes ou les municipalités considère normal de recevoir une subside via la publicité pour financer leur mobilier urbain, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'elles puissent continuer à toucher cela. Donc, elles peuvent accepter notre revendication. On peut imaginer que les élus, l'opinion publique, demandent à être protégés, demandent, moi, ce que j'appelle la liberté de réception. La liberté de réception, c'est-à-dire le droit au choix, la liberté à ne pas subir. Il y a la liberté d'expression, le corollaire, c'est la liberté de réception. C'est-à-dire, si on veut ne pas subir, eh bien, qu'on puisse ne pas subir. Donc, c'est quelque chose qui est acceptable. Donc, effectivement, c'est pas forcément leur intérêt de nous offrir une tribune pour pouvoir expliquer quelque chose qui est largement recevable par l'opinion publique, d'autant plus que l'opinion publique est aujourd'hui majoritairement publiphobe.
J'illustre ton propos parce que les publicitaires commandent régulièrement des sondages pour voir un petit peu où on est leur cote de popularité. Et il apparaît que dans un sondage Ipsos commandé par l'agence de publicité Australie en novembre 2004, 78% des 1500 personnes interrogées trouvent que la publicité est trop envahissante, qu'il y en a trop. Et le premier média incriminé, c'est l'affichage publicitaire, agression majeure.
Justement, par rapport, enfin, il y a l'affichage, mais il y a aussi la télévision. Quand on va au supermarché, maintenant, il y a des lampes qui clignotent. Enfin, il y a tout un tas de choses. Même dans les films, au cinéma, souvent, il y a de la publicité. Dans les matchs de foot, il y a de la publicité. Enfin, je sais pas, il y a de la publicité partout. Pourquoi vous ne vous attaquez qu'aux panneaux, alors qu'elle est en train, en plus, d'être de s'introduire partout et de façon invisible?
C'est que nous sommes des obsédés de la voie publique et de l'espace public. Que les gens consomment du petit écran chez eux, c'est leur problème. Que les gens s'intéressent au ballon rond, c'est leur problème. Que les gens aillent voir des navets américains au cinéma, c'est leur problème. Mais que le paysage urbain, notamment, soit envahi, c'est mon problème. Parce que je suis chez moi, sur la voie publique, puisque le public, c'est moi et c'est vous. Donc, nous plaçons très haut dans notre échelle de valeur l'espace public. Voilà ce qui sous-tend notre combat. Et il y a une raison beaucoup moins noble aussi, et il faut l'avouer, c'est que nous sommes lâches et que les panneaux publicitaires sont des proies faciles. Elles sont là à portée de main. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vulgaires bouts de papier, mais dont il est plus difficile de venir à bout, ou aussi difficile de venir à bout, quasiment, que d'immeubles qui ont été ratés par des architectes et dont on obtient très difficilement le dynamitage. Parce que ces petits bouts de papier qui jonchent le paysage, en fait, sont des verrues. Et comme chacun sait, les verrues sont reliées à des choses profondes dans le corps. Eh bien, les étrons dont je parlais tout à l'heure, ou les verrues dont je parlais à l'instant, sont reliées à un système très profond donc, contre lequel il est très difficile de se battre. J'ai fini sur ce point. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Une autre raison pour laquelle les afficheurs ne nous attaquent pas, c'est que, je ne sais pas si ça a été dit, je ne crois pas, je vais le dire brièvement, c'est que c'est très difficile pour des délinquants d'attaquer des citoyens honnêtes. N'oubliez pas que J.C. Decaux, le groupe Avenir J.C. Decaux, le groupe Claire Chanel, ex-Dauphin, le groupe Viacom, ex-Giraudy, et le groupe Défi France, qui orne de ces publicités lumineuses le haut de nos immeubles, sont des délinquants multirécidivistes. Des décisions de justice jusqu'au Conseil d'État et à la Cour de cassation ont reconnu les délits commis par ces gens-là. Mais nous serions des naïfs si nous pensions que ce sont les seuls délinquants dans le pays. On sait bien qu'on est environné de délinquants et chacun d'entre nous est délinquant à un moment donné dans sa vie. Donc, ces délinquants-là, qui donc forcément ont de bonnes raisons d'hésiter à nous attaquer, on peut leur donner notre absolution. Ils ont raison d'enfreindre la loi parce que la publicité, nous l'oublions pas, comme le rappelait Catherine Deneuve, l'actrice, ce n'est pas de la création, ce n'est pas de l'information, c'est de l'argent. Et qui dans cette salle peut nier que l'argent, c'est bon? Comment voulez-vous que des êtres normalement constitués, et les afficheurs sont des êtres normalement constitués, pourquoi voulez-vous qu'ils se réfrènent dans la quête de l'argent quand rien ne les contre? Ils sont face à une population grandement anesthésiée. Ils sont face à une loi laxiste qui leur autorise tous les méfaits. Donc, ils s'en mettent plein les poches et je ferai pareil à leur place. Donc, quand je les traite de délinquants, je les absous d'abord. Et ils ont ma bénédiction. C'est ça notre problème. Voilà le système.
Alors, tu as souligné le fait qu'effectivement, les afficheurs enfreignent la loi dans les grandes largeurs. Mais il faut voir autre chose, c'est que cette loi, en elle-même, est profondément laxiste et insupportable. La loi de 1979 qui réglemente l'affichage publicitaire en France autorise tous les débordements. Elle a été écrite par les afficheurs à l'époque. C'était qui ? Giscard ?
C'était Giscard.
Elle a
été rendue, on n'a rien fait pour.
Voilà, elle a été écrite quasiment par et pour les afficheurs. Elle autorise des dispositifs surdimensionnés en nombre illimité dans l'espace public, moyennant quelques petites contraintes. Donc, il y a deux niveaux. D'une part, les afficheurs, malgré cette loi laxiste, l'enfreignent largement. Ça, c'est le rôle de Paysage de France d'attaquer là-dessus. Nous, notre rôle, c'est de dire que nous voulons un changement de la loi, une refonte de cette loi et sa simplification pour que cesse le matraquage.
Oui, mademoiselle.
À Lyon, il y a une association qui s'appelle les casseurs de pub. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Est-ce que vous travaillez avec eux ? Parce qu'eux, ils attaquent toutes les pubs. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une réglementation au niveau européen de la taille d'affichage ? Et la troisième question, est-ce que vous pensez que la France est un pays surtout agressif par rapport aux autres pays européens, ou africains, asiatiques ? Je vais souvent en Allemagne, et quand je reviens en France, souvent je suis étonnée de la taille d'affichage dans le métro, dans le RER, etc.
Il y a trois questions. Je réponds bien à la troisième.
D'accord. La première, on peut y répondre brièvement. Oui, casseur de pub fait partie de notre famille. Nous faisons partie, eux comme nous, de la grande constellation anti-publicitaire. Nous avons... Enfin, certains d'entre nous ici ont participé à la création de casseurs de pub. Donc, toutes les entités anti-publicitaires travaillent main dans la main dans une profonde harmonie. Donc, oui, c'est la même famille.
Pour la deuxième ?
La réglementation européenne.
Alors, oui, réponse courte concernant la réglementation européenne. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'une réglementation au niveau européen. Sinon, je pense qu'on le saurait. Donc la réponse est très probablement non, il n'y a rien au niveau européen. Et concernant, à moins que tu veuilles répondre, concernant la France, d'accord.
Je voulais rajouter quelque chose sur la réglementation. Donc quand nous avons donc commencé les barbouillages à Montpellier, on a eu vent que Montpellier avait rendu plus sévère sa réglementation. C'est-à-dire qu'ils ont fermé... Ils ont fermé le centre-ville, donc le centre historique, l'ont rendu plus agréable à l'œil. Étonnamment, ils ont chassé la publicité. Et de plus, ils ont réduit donc à 8 mètres carrés la taille maximale des panneaux, mais toujours aux abords de ce centre-ville. Montpellier, vous promenez après dans la plus grande périphérie, et là vous vous rendez compte que les panneaux ont bel et bien été chassés du beau Montpellier. Et donc la densité a largement augmenté dans cette périphérie et les zones périurbaines.
Lorsqu'on passe de France en Allemagne, en effet, ou de France en Suisse, on est surpris de découvrir des pays où il n'y a pas cette agression publicitaire. Elle existe cependant. C'est tellement drôle qu'en Suisse, nous avons des amis anti-publicitaires où... La législation en cours interdit tout le déballage qu'il y a actuellement en France. Et il y a une association de publicitaires à Genève qui s'appelle l'Alliance contre les interdictions de publicité. C'est l'inverse. Là-bas, les publicitaires veulent des changements de loi pour pouvoir mettre plus de pubs. En France, il n'y a pas de frein. En France, les publicitaires peuvent rajouter des panneaux partout. Ils peuvent négocier avec les mairies des abribus contre n'importe quoi. En France, il n'y a pas encore d'opinion publique forte mobilisée contre l'excès de publicité. Et quand nous parlons d'agression publicitaire, le terme est juste parce que si j'ouvre la télévision, je fais un choix de regarder la télévision. Et si la pub à la télévision, je le sais. Mais quand je vais acheter ma baguette le matin, je suis forcé de sortir de chez moi. Ce n'est pas un choix. Comme ce n'est pas le choix d'acheter un journal dont je sais à l'avance qu'il est truffé de pubs, même s'il y a de bons articles. Mais quand je sors dans l'espace public, je suis forcé d'être agressé, de me laisser agresser. C'est pourquoi pour nous, c'est un fer de lance très fort d'avoir choisi l'affichage publicitaire pour dénoncer l'ensemble de la publicité. Et je terminerai juste en disant, tout cela, c'est question de taille, c'est important. Mais derrière, il y a quoi? Il n'y a que pour nous, le bonheur n'est pas dans la consommation. Ce n'est pas en achetant sans arrêt de plus en plus de produits que l'être humain est heureux. C'est faux. Ce n'est pas en consommant sans arrêt des nouveautés qu'on trouve la joie de vivre. C'est faux. Ça, c'est les leurs et c'est un phénomène de société très grave. Et lorsqu'on voit le taux de suicide dans la population en France, il faudrait peut-être le mettre en relation avec toutes les frustrations qu'engendre la publicité. Mais on parle aussi, on pourrait parler beaucoup d'autres phénomènes, le viol et le sexisme et beaucoup d'autres choses.
J'ai juste un petit point complémentaire par rapport à votre question sur l'affichage en France. Si on regarde la répartition des budgets publicitaires, tous médias confondus, la France détient le record pour ce qui est de l'affichage. Les autres pays sont, mettons, à 7, 8, 9% pour l'affichage par rapport à tous les médias. En France, on tourne à 14-15%. Donc l'affichage est extrêmement développé en France par rapport aux autres pays qui nous entourent, au moins.
Moi, je voudrais aussi apporter ma petite touche. Nous attaquons bien à tous les aspects du système publicitaire. C'est-à-dire que notre procédé permet aussi d'aborder les autres points. Il est vrai que l'angle d'attaque qu'on a choisi est celui de l'affichage, qui est un problème prioritaire par rapport à l'occupation et la privatisation de l'espace public, que ce soit le mobilier urbain ou que ce soit les façades, les paysages, etc. Ceci dit, nous abordons effectivement toutes les problématiques. On peut imaginer aussi qu'il y ait non seulement un affichage plus réduit, mais qu'il ne soit pas non plus seulement de nature consumériste et commerciale, comme François vient de le dire. Car nous, êtres humains, nous avons plusieurs dimensions. Et c'est aussi cela, en tout cas, je pense que nous revendiquons, mais je vais parler en mon nom, nous revendiquons que nous sommes des êtres aux dimensions plurielles, c'est-à-dire aussi bien qui pouvant avoir une spiritualité, que de l'humour, une dimension artistique, poétique, philosophique, politique, et que donc tous les aspects de la vie méritent d'être abordés. Or, aujourd'hui, dans le système publicitaire, il y a une occultation de tout le reste, c'est-à-dire que nous sommes réduits à cette dimension unique de consommateur et son corollaire de producteur, donc travailler pour pouvoir se payer les biens de consommation vantés en permanence. Voilà, merci.
D'autres questions ?
Oui, peut-être il y a un an et demi ou 2 ans, avant la création de votre collectif, à Paris, il y avait plusieurs personnes qui ont fait les mêmes actions et qui avaient un site internet. Mais ils ont annoncé les actions, mais ils devaient changer l'adresse d'internet de site parce qu'ils étaient suivis par la police ou je ne sais pas quoi. Est-ce que parmi les fondateurs, il y a ces militants qui ont participé à ces actions. Alors, vous n'avez rien à voir avec ces gens-là.
Le projet du collectif des déboulonneurs n'a d'une certaine façon rien à voir avec les actions Stop Pub, enfin, qui se sont appelées Stop Pub par rapport au nom du site, donc le nom du site qui procédait à l'appel à ces actions. Ça n'a rien à voir, d'une certaine façon, puisque nous avons un objectif et une revendication, donc la taille maximum de 50 cm par 70 cm, et nous ne cherchons pas à faire un dommage maximal en termes de dégradation, mais juste un dommage suffisant pour ennuyer les publicitaires et pour pouvoir poser un débat au sein de l'espace public et politique. Donc c'est une approche qui est différente, d'autant plus que contrairement aux actions Stop Pub, nous sommes prêts à aller en procès, alors qu'il n'était pas prévu, quand les actions Stop Pub ont existé, qu'on aille en procès ou que les personnes aillent en procès. Maintenant, moi-même, je fais partie des personnes qui ont été, qui ont participé à ces actions-là et qui ont été interpellées. J'ai été donc assigné et j'ai été condamné également. Donc, je fais partie de cette aventure-là, mais c'est complètement dissocié dans le projet.
Et est-ce que la mairie de Paris, j'ai cru voir qu'ils pensaient un petit peu à limiter l'affichage. Est-ce que vous avez parlé de ça avec eux ou pas du tout
Alors là, c'est dans le cadre des négociations du règlement, des renégociations du règlement local de publicité à Paris. Certains élus, notamment une élue verte qui s'appelle Charlotte Nenner, au Conseil de Paris, essayent de faire le maximum pour réduire la pression publicitaire dans l'espace public. Donc, Madame Nenner agit sur un plan légaliste. En tant que membre du conseil municipal de Paris pour faire baisser la pression publicitaire. C'est très bien et je pense que chacun de nous l'encourageons dans ce sens. Maintenant, le problème, c'est que les structures en place institutionnelles sont tellement rigides et cet élu étant quand même assez isolé au sein du conseil municipal. Cette action nous semble insuffisante. Et si vous voulez, l'action des déboulonneurs est là pour exercer une pression supplémentaire sur les pouvoirs publics. Maintenant, il est toujours intéressant de suivre ce qui se passe à Paris, mais nous aspirons à des changements beaucoup plus radicaux, parce que là, même les propositions qui ont été formulées par Madame Nenner nous semblent encore largement insuffisantes par rapport à ce qu'il faudrait faire pour cesser de subir la publicité dans la rue.
Bonjour, j'aurais besoin d'une petite précision d'Yvan Grady à propos de l'étron. Je pourrais aller regarder dans le dictionnaire, mais j'aimerais avoir la définition d'Yvan Grady.
Un étron, c'est une crotte de chien.
Merci.
Je voudrais savoir si dans votre comité de soutien, il y a des politiques, justement. Enfin, il y a des personnalités politiques.
Oui. C'est un point délicat, hein, de parler de politique. Oui, il y a une élue verte, donc Charlotte Nenner, qui nous soutient dans nos actions, qui est présente régulièrement à nos actions, élue de Paris, maire adjointe du 10e arrondissement, ça c'est une chose. Il y a par ailleurs un élu du 11e arrondissement radical de gauche qui s'appelle Jean-Christophe Mikhaïlov. Est-ce qu'il est radical de gauche ou radical socialiste ?
Radical de gauche. Oui.
Radical de gauche. Voilà les deux principaux soutiens politiques. Je précise que depuis des années que le mouvement anti-publicitaire existe, nous avons, et j'en suis le témoin, nous avons systématiquement invité à toutes nos manifestations tous les milieux politiques, sauf certains extrêmes. Et ce n'est pas notre faute si certains partis ont été régulièrement absents. Voilà. Il faut dire ce qui est, parce que là, une fois de plus, c'est la vérité qu'il faut dire. Le RPR à l'époque, je crois que ça s'appelle l'UMP maintenant, n'a jamais donné son soutien, même s'il nous a été donné de collaborer avec un député RPR à l'époque sur le problème des boîtes aux lettres. Bon, mais là, on s'éloigne un peu du collectif des déboulonneurs. En tout cas, nous appelons toute la classe politique à nous soutenir, sans exclusive, sauf les extrêmes dont nous ne partageons pas certaines valeurs. Et voilà, et viennent ceux qui veulent.
Pour enchaîner sur ce thème-là, j'aimerais bien faire comprendre que notre objectif peut être retenu par des personnes qui sont apolitiques, de gauche, de droite et autres. C'est très important pour notre combat. On ne se situe pas sur l'échiquier politique, on se situe sur l'échiquier de la publicité et de sa réduction. Et là, je vous donne quand même, dans ce canard, dans cette revue Alternative Non-Violente, il a résulté un sondage commandé par les publicitaires eux-mêmes. Et ils l'ont publié simplement dans Stratégie. Ils l'ont publié nulle part ailleurs. Ils posent la question à un échantillage, Sauffresse et compagnie, d'une manière générale, que pensez-vous de la publicité ? Total des opposés, très opposés ou plutôt opposés, ils étaient 36% en 2002, ils sont 43% en octobre 2005. Donc les publicitaires sont très inquiets en ce moment parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le vent en poupe. Que la publicité, 43%, on va bientôt arriver à 50%. Et nous, nous comptons, collectif des déboulonneurs, sur l'opinion publique uniquement. On ne compte pas sur les hommes politiques. C'est parce que nous aurons gagné à notre cause la majorité d'une opinion politique que, à ce moment-là, les pouvoirs publics seront obligés de négocier sur cela. Sans l'opinion publique pour la réduction et la suppression de la publicité, nous n'avons aucune chance d'obtenir gain de cause. Or, nous voulons obtenir gain de cause.
Je reprécise simplement pour les chiffres. Donc là, le chiffre de 43% que tu cites, ce sont 43% de personnes qui sont carrément publiphobes. Il faut employer les termes qui ont été employés dans le sondage. Les 78% dont je parlais tout à l'heure, c'était un sondage de l'année dernière, pas de cette année. 78% de personnes qui trouvent qu'il y a trop de publicité. Et à l'époque, c'était, je crois, 28 ou 30% qui se déclaraient publiphobes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une progression très nette de personnes qui n'en peuvent plus d'être gavées du matin au soir, chez eux comme à l'extérieur, de messages souvent violents, souvent manipulateurs, souvent choquants, et en nombre, enfin par centaines.
Il y a plusieurs difficultés pour composer avec la donnée politicienne. Déjà, il faut savoir qu'en 2005, il y a eu 35 milliards d'euros de dépenses publicitaires. Alors, on sait bien que les politiques sont évidemment affinitaires avec tout ce qui relève de l'activité économique. Donc, que ce soit affinitaire humainement ou stratégiquement par rapport à un lobby extrêmement puissant. La deuxième chose, c'est que il y a, on va dire, un genre de retour d'ascenseur, c'est-à-dire que les élus font de l'affichage, enfin les élus permettent l'affichage en ville, mais en compensation, on sait qu'il y a donc aussi bien du mobilier urbain, y compris du mobilier à destination à caractère politique local, donc une genre de tribune pour les élus, voire des campagnes qui puissent être financées d'une certaine façon au niveau du matériel par certains afficheurs. Donc il y a un genre de complémentarité qui peut exister, une connivence qui peut exister, une collusion qui peut exister entre les publicitaires et les politiciens. Ensuite, sinon le dernier volet, c'est que les politiciens sont populistes dans le sens où ils attendent le suffrage des populations, et donc ils sont prêts à se positionner à partir du moment où ils sentent qu'il y a un vent qui peut leur apporter des voix, c'est-à-dire qu'ils raisonnent de manière électoraliste. Donc il ne me semble pas de manière nette qu'il y a un plébiscite anti-publicitaire. Il est probable qu'il n'y aura que très peu de positionnements anti-publicitaires au sein de la sphère politicienne. Étrangement, quand il y a eu les actions Stop Pub de l'automne 2003, donc les actions dans le métro, de nombreuses personnes se sont manifestées de toute latitude. Étant donné que j'étais sur la défense militante, j'ai pu être sollicité par différentes personnes. Et là, je peux vous dire que j'ai été contacté par une sénatrice du Parti communiste, par des membres de différents partis de gauche et d'extrême gauche, y compris de droite, etc. Donc, d'un coup, quand il se passe quelque chose qui a une répercussion massive au sein de l'opinion publique, on sent les politiciens qui frétillent et qui sont prêts d'un coup à se manifester et à prendre position. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, au stade de développement du collectif des déboulonneurs, il n'y a pas de position affirmée de la plupart des politiciens. On saura qui était dans l'aventure depuis le début et ceux qui viennent se greffer de manière opportuniste.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, rien, tu me fais rire.
J'aimerais savoir ce que vous risquez comme peine, vous deux, là, à Montpellier, et d'une façon générale, si la police vous arrête pendant ces actions, qu'est-ce que vous encourez ? Et puis, vous, Alex, vous avez été condamné à combien ? Enfin, voilà, ça fait trois questions.
Ben, après avoir vu l'avocat, les peines, les articles qui sont retenus contre nous, ça serait environ la peine maximum que le procureur peut demander. Ça serait 300 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Ça, c'est la peine maximum, quoi. Donc après, ce qu'on encourt, c'est à la bonne volonté du procureur de ce qu'il réclame. Et, sachant que JCDECO, c'est pas parti. C'était un panneau JCDECO, c'est pas parti civile. On ne sait pas encore s'il le fait, combien ça peut nous coûter après en termes monétaires, quoi.
Peut-être que vous pouvez un peu parler du procès de Montpellier. Comment vous le préparez, non ? Ou les autres... la peine, oui.
Il voudrait compléter. Moi, je voudrais compléter aussi derrière et répondre aux autres questions. Ouais. Aussi.
Il m'a coupé l'herbe sur le pied. Donc,
donc, personnellement, j'ai été condamné à 2501 euros, à savoir qu'on demandait 1 million d'euros pour 62 personnes. Et donc, j'ai été condamné à 2000 euros de dommages et intérêts, 500 euros de frais aux dépens et 1 euro pour l'image. Pour apporter un petit complément, les peines encourues ne peuvent être qu'en rapport avec la dégradation et seront, d'une certaine façon, proportionnelles aux dégâts réels. Donc, il est évident que pour un dommage qui peut être chiffré à quelques centaines d'euros, on ne peut pas demander plusieurs milliers d'euros, ça n'a pas de sens. Donc, les juges ne sont pas stupides, ils sont humains, ils sont sensibles, et il n'y a pas de raison qu'ils n'entendent pas les raisons qui nous motivent, et il n'y a pas de raison non plus donc qu'il y ait un jugement incohérent, puisque ça entraînerait je ne sais pas si c'est cassation, mais enfin ça entraînerait que le jugement soit cassé et d'une certaine façon qu'eux-mêmes soient remis en cause. Donc ce n'est pas leur intérêt de faire un jugement qui ne soit pas proportionné.
Le des chiffres que tu citais, Jean-François, c'est ce que dit la loi à l'état brut dans le cas de dégradation grave de biens privés. Hein, donc c'est la peine maximum encourue dans ce cas-là. Mais ensuite, pas l'article en question. Donc, mais il n'y a aucune chance que nos amis montpelliérains subissent de telles peines, je vous rassure. Et a priori, la prison aussi est exclue.
Voilà. du coup, je vais en profiter pour revenir un peu à ce côté financier des peines qui peuvent être encourues et tous les frais que vont entraîner au collectif notre défense. Donc, dis-le quand tu penses. Donc voilà, nous recherchons des soutiens. Donc, parmi ces recherches de soutien, nous avons décidé d'organiser des soirées sur Montpellier. Bon, ça se fait très, très couramment dans beaucoup d'endroits de la ville, dont des bars. Et donc, à partir de maintenant, alors que nous continuons de déboulonner, de barbouiller les panneaux publicitaires, voilà, nous organisons des soirées comme celle-ci. Donc, c'est un bar de Montpellier qui a accepté de nous prêter sa salle. Nous recevons des groupes locaux. Et pendant cette soirée, donc, on pourra sensibiliser plutôt les gens à nos actions, à notre combat.
Je voudrais vous répondre aussi sur l'attitude de la police pendant les actions. C'est très intéressant. Je suis assez mal placé pour vous dire ce qui se passe en dehors de Paris. François Vaillant pourra le faire puisqu'il passe tous ses vendredis, quatrième vendredi soir du mois au commissariat. À Paris, en revanche, la situation est assez différente. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, au cours de la première action, après avoir barbouillé largement trois panneaux publicitaires, les six barbouilleurs se sont approchés de la police en leur tendant chacun leur carte d'identité. Qu'ont fait les policiers, qui étaient pourtant en nombre suffisant? Non seulement ils ont refusé de prendre les cartes d'identité des barbouilleurs alors qu'il y avait flagrant délit, mais en plus ils ont reculé. Ils ont reculé. Pour quelle raison? Parce qu'ils sentent que nous sommes un bâton de dynamite qui ne demande qu'à exploser entre leurs mains. Alors toujours de manière non violente, bien sûr. Et ça s'est vérifié au cours des actions suivantes. Il y a eu 6 actions à Paris depuis novembre 2005, une tous les 4e vendredi du mois. 4 fois, la police est arrivée sur les lieux. Il n'y a pas eu une seule interpellation. Les policiers refusent de nous interpeller, à tel point qu'au cours de la dernière action, nous les avons suppliés de nous arrêter. Et même comme ça, ça ne marche pas.
Nous avons commis un flagrant délit devant eux.
Voilà. On peut barbouiller des panneaux devant les policiers, et ça ne suffit pas pour qu'ils nous arrêtent. Donc, ils nous laissent faire. Ça les fait même rigoler. Donc, il y a 2 possibilités. Soit nous avons le soutien de la police et de la préfecture de police à Paris, soit nous sommes tellement dérangeants politiquement que la préfecture préfère laisser couler.
Oui, je pense, si je peux souligner, il faut continuer dans ce sens. Ou peut-être qu'il y a un malaise du fait de notre mode d'action. Il y a eu un barbouillage le week-end qui vient de passer, samedi, à Montpellier. Ce panneau était... il devait être implanté sur une résidence. Quelqu'un nous a interpellés par la fenêtre, donc en nous demandant de décarpir. D'abord en nous demandant qu'est-ce qu'on faisait, donc on a expliqué que nous barbouillons ce panneau publicitaire, nous a demandé de décarpir. Ou sinon il appelait la police. Nous lui avons clairement dit qu'il appelle la police. Donc nous avons fait l'action, elle a duré une bonne demi-heure. Et encore une fois, voilà, ça rejoint. La police n'est pas intervenue, alors qu'on est connu maintenant. Ils nous ont gardé un petit peu avec eux. Donc il doit y avoir une certaine malaise sûrement provoquée. Et ça s'est un peu senti pendant la garde à vue où, là je parle en mon nom puisqu'on était séparés avec Jeff, Jean-François. Les policiers, on s'est arrivé à poser des questions et à souligner que c'est des questions personnelles. Donc ce sont des êtres humains, il y a une prise de conscience, donc peut-être qu'il y a une prise de conscience qui se fait par leur biais ou alors un mal à l'aise ressenti plus haut.
Le fait d'assumer notre action dérange et n'est pas habituel pour les policiers. Le fait qu'on présente nos cartes d'identité, qu'on soit prêt à se faire interpeller, qu'on soit prêt à avoir un procès, fait que du coup, ils se demandent si c'est bien raisonnable justement de nous interpeller. Et donc pour cette raison, puisque ça fait 6 actions en 6 mois que nous faisons à Paris, donc c'est une période d'essai de 6 mois, on peut considérer, puisque sur 6 actions, il n'y a aucune interpellation, nous avions choisi le mode de prévenir les personnes, mais de ne donner le lieu qu'au dernier moment. Parce qu'on se disait peut-être que la police allait nous empêcher de commettre notre acte bienfaiteur. Donc, puisque la police ne souhaite pas nous arrêter, nous annonçons aujourd'hui publiquement le prochain lieu du 7e barbouillage. Donc,
si vous voulez noter.
Donc, le rendez-vous sera donné, donc, comme tous les 4e vendredi du mois, donc vendredi 26 mai, à 19h précise, donc sur le terre-plein central de la place de la République. Nous allons
faire connaître ce lieu de manière massive, autant qu'il puisse être relayé par qui veut bien le relayer, et nous verrons bien si les forces de l'ordre veulent toujours faire la sourde oreille et nous laisser agir comme ça en toute impunité.
Donc le 26 mai, 19h, place de la République, nous nous retrouvons. C'est une heure qu'on peut donc faire connaître à nos lecteurs, auditeurs et autres.
Le lieu et l'heure.
Terre-plein central, place de la République, et de là, il y aura donc du spectaculaire dans le genre barbouillage à Paris.
Est-ce que je peux donner une information à ce sujet ?
Oui.
Nous ont déjà assuré de leur présence le président de la République, Jacques Chirac. Là, je fais de la désinformation sur le mode de la plaisanterie. On a le droit dans une conférence de presse, hein, finalement, qui a déclaré en 2002 que c'était une pollution visuelle. Ce sont ces mots, pollution visuelle, due à ces publicités intempestives. Voilà ces mots prononcés pendant sa campagne électorale en 2002. Nous ferons aussi l'honneur de leur présence. Je plaisante toujours. Edgar Morin, le sociologue, Hubert Reeves, l'astrophysicien, qui nous appelle, qui nous incite à barbouiller, chaleureusement, ça ce n'est pas une plaisanterie. Michel Serre, de l'Académie française, et ce n'est pas une plaisanterie que la phrase suivante. Michel Serre a dit que les publicitaires, contrairement aux animaux, pissaient, en français dans le texte, pissaient, là où ils ne vivent pas. C'est-à-dire qu'ils, alors que les animaux marquent leur propre territoire, les publicitaires marquent le territoire des autres. Ils pissent là où les autres vivent. Le commandant Cousteau sera aussi des nôtres, déterré pour l'occasion. Senghor, je ne sais pas si Senghor est mort ou vivant. Léopold, il est toujours vivant. Léopold César Senghor, le chantre de la négritude, de l'Académie française aussi, qui a appelé à déchirer des affiches publicitaires, qu'il jugeait racistes. Et puis, je pourrais en citer d'autres, Philippe Val, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui a parlé de lèpre et de furonculose. Là, on n'est plus dans les étrons, là. Au sujet des affiches. Et enfin, je finirai par Paul Valéry, l'écrivain de la première moitié du XXe siècle et poète aussi de l'Académie française, qui avait dit que la publicité était une insulte. Voilà. Alors, je plaisante en disant que tous ces gens-là seront des nôtres, mais j'espère qu'ils seront des nôtres, morts ou vivants.
Avant une autre question, j'aimerais apporter une précision sur la question des amendes. Pour votre information, j'ai déjà été arrêté 4 fois, gardé à vue 4 fois de courte durée à Rouen, et un jour j'ai reçu une convocation pour aller au poste de police de mon domicile. J'y suis allé, et là il y a donc quelqu'un, un officier de la police judiciaire, qui m'a présenté un devis de 160 €. C'est le tarif de J.C. Deco pour débarbouiller un panneau 3/4 que j'avais barbouillé le 25 novembre 2005. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pour débarbouiller une inscription faite avec ce type de bombe, pour un panneau en altitude, ils ont donc, ces sociétés ont des élévateurs, et j'ai vu moi-même à 7h du matin comment ils ont procédé. Ça a duré exactement 18 secondes pour effacer avec des produits spéciaux sur la vitre, l'inscription. Et donc, je vous dis 160 €. Alors, j'ai fait une déposition en disant que j'avais commis un acte politique non violent de désobéissance civile antipublicitaire et que je m'engageais à ne jamais payer cette somme. Voilà. Donc, on va voir la suite à Rouen. Mais pour bien comprendre que les procès que nous souhaitons, pourquoi est-ce que nous souhaitons avoir des procès? C'est pour en faire des tribunes publiques. C'est pas pour avoir la joie de payer une amende ou d'avoir une amende qu'on ne payera jamais ou des travaux d'intérêt généraux que nous refuserons de faire, surtout si c'est pour les antipublicitaires, pour avec les publicitaires. C'est parce que ce sont des tribunes publiques. Donc plus nous aurons de procès, plus nous serons contents. Afin que l'opinion publique soit amenée à réfléchir sur la question de la publicité.
Et je soulignerai, là je parle en mon nom, toujours. Demain, donc le 27 juin, j'aurai un procès. Si jamais le débat est flouté, si jamais
ça devait se passer, enfin, on essaierait de nous ridiculiser ou quoi, je serais prêt à aller en prison, pourquoi pas, pour montrer dans quelle démocratie nous vivons aujourd'hui. J'ai pas que ça à faire, j'ai une vie à côté, je vous disais, je suis en formation, mais si jamais c'était comme ça que ça devait se passer, je suis prêt à assumer cet acte. Pardon ?
C'est une bonne formation.
Ouais, mais...
Oui, des questions ?
Ça, c'est pour Yvan Gradis. Tout à l'heure, je demandais si vous attaquiez pas à d'autres formes de publicité. Vous m'avez dit non, pour l'instant, on s'attaque principalement à l'espace public. Mais je pensais à toutes les publicités qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, à l'éducation nationale. C'est bien l'espace public. Les enfants n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à l'école. Et là, il y a de plus en plus de publicités. Donc là, vous, c'est l'espace public, vous faites rien.
Attendez, attention, le mouvement anti-publicitaire au sens large, toute association confondue s'occupe de tous les fronts de la lutte anti-publicitaire, y compris celui que vous venez de dire, c'est-à-dire les intrusions publicitaires dans le domaine scolaire, évidemment. Ça, c'est notamment une association comme RAP, Résistance à l'agression publicitaire, qui s'occupe de ça. Nous, ici, c'est le collectif des déboulonneurs qui fait cette conférence de presse. Donc nous n'avons pas vocation à nous occuper de toutes les atteintes publicitaires. Nous avons en arrière-plan les motivations générales constituées par les différents types d'agressions publicitaires, évidemment, c'est-à-dire le système publicitaire. Mais il y a d'autres associations, enfin, il y a des associations ou d'autres entités qui s'occupent évidemment de chaque domaine particulier, y compris l'école.
C'était sur le nombre de publicités par habitant. Vous n'avez pas précisé, bon là on a la taille 50 par 70, mais vous avez dit qu'il faudrait limiter ça.
Vous voulez une précision sur notre objectif dans son ensemble, c'est ça ?
Oui, en fait, les objectifs chiffrés, là, c'est réduire la taille et limiter aussi le nombre de publicités par habitant dans une commune, par exemple. Mais combien ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est un petit peu le principe qui existe aujourd'hui, par exemple, à Paris. L'affichage associatif et d'opinion est régi par la loi actuelle de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte, enfin, il y a une notion de densité, de nombre de panneaux qui font 2 mètres carrés. Donc, un panneau fait 2 mètres carrés. Il est composé de plusieurs panneaux qui font 50-70 au maximum, avec des petits panneaux qui font seulement 1 à 4, quoi, hein, 21-29-7. Et ces panneaux qui font au maximum 2 mètres carrés, qui ne seraient ni lumineux ni animés, en plus, sont implantés à Paris en fonction du nombre d'habitants. Quoi. Donc il y a un panneau par tranche de milliers d'habitants, quelque chose comme ça, la loi actuelle.
Combien ?
Un panneau par tranche de milliers ou de dizaines de milliers d'habitants.
Mais non, c'était les chiffres que je voulais, en fait.
Bah, les chiffres précis varient pas mal, et d'un endroit à l'autre.
Vous n'avez pas décidé ça ?
Ça fera. C'est justement, on laisse une marge de négociation. Nos interlocuteurs dans cette histoire, ce sont les pouvoirs publics. Lorsque les pouvoirs publics auront subi suffisamment de pression de la part de l'opinion publique, ils viendront rentrer en négociation avec nous. Du moins, c'est ce que nous espérons. Nous n'avons pas fixé de chiffres pour l'instant, parce que nous estimons que cela doit faire l'objet d'une discussion, d'un débat, d'une négociation. Il serait peut-être un peu trop périlleux pour nous de nous avancer sur la densité d'implantation. Donc nous préférons mettre en avant le fait que la densité d'implantation doit être raisonnable. Et se servir du nombre d'habitants comme critère de choix, c'est déjà poser les jalons de la décision finale. Mais pour l'instant, on n'aura pas plus dans le détail. Le reste fera l'objet de négociations.
Et comme on soulignait que on n'était pas contre la suppression totale de la publicité, les publicitaires aussi seront invités autour de cette table, ce qui paraît complètement logique. Donc c'est vraiment ça peut pas être des chiffres annoncés de notre propre chef et qui s'imposeraient. Déjà le débat ou la négociation serait déjà faussée.
Ce qui est certain, c'est que ce qu'on revendiquera comme contrainte de densité, ça sera plus aigu, enfin la contrainte sera plus forte que celle qui existe actuellement. Il n'est pas question évidemment que les publicitaires puissent compenser la taille de l'affichage par
surmatraquage du nombre de dispositifs publicitaires. Donc ce qui existe par rapport à la loi de 1979 et ce qui existe par rapport aux réglementations locales de publicité dans chaque ville, ça sera une base par rapport au nombre, par rapport à la densité à choisir, mais ça ne pourra être que contraignant par rapport à cette base première.
Voilà, si nous avons fait le tour.
Madame.
Excusez-moi, en fait, il me vient une question. On parlait tout à l'heure du malaise de la police. Moi, je me pose la question, si le procès à Montpellier reste l'exception, si on ne vous donne pas l'occasion d'ériger votre tribune de cette façon, de la façon dont, que vous projetez, en fait, est-ce que vous avez pensé à autre chose? Est-ce que vous êtes dans la surenchère? Voilà. Je pose la question.
Je vais vous répondre avec l'exemple de Gandhi, la marche du sel. Effectivement, en ce moment, j'allais dire, la police nous évite ou ne prend pas tous. Au début, lorsque la première grande action de violence civile a eu lieu avec Gandhi, les Anglais s'y intéressaient pas. Ils faisaient semblant de pas regarder. Et ils ont même laissé Gandhi partir au bord de la mer, recueillir du sel dans sa main. Et ce sel dans sa main était un acte de violence civile, puisque le sel, à l'époque, était sujet à un impôt. Et donc, on n'avait pas le droit de recueillir du sel au bord de la mer, parce que qui achète du sel devait payer l'impôt à l'Empire britannique. Donc, recueillir symboliquement du sel était un geste de désobéissance civile. Et quand Gandhi a dit qu'il allait faire cette action-là, tout le monde riait. Et nous, on rit. Où on fait rire des gens lorsqu'on dit qu'on va barbouiller. Seulement, lorsque Gandhi est parti, il y avait simplement 10 compagnons avec lui. Et il y avait 300 kilomètres pour aller à la mer. Et chaque jour, il y avait quelques centaines de gens qui venaient derrière lui. Là, moi, j'observe que en ce moment, chaque mois, il y a un ou une ou deux villes de plus qui barbouillent. Et au bout d'un moment, dans le film Gandhi, d'ailleurs, c'est très bien rapporté, on voit le gouverneur britannique qui commence à s'affoler en disant « Mais il y a beaucoup de monde, ils sont déjà maintenant mis autour de Gandhi, aller au bord de la mer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ?» On désoriente toujours l'adversaire qui ne sait pas comment réagir. Parce que supposons que dans quelques mois, il y ait 10, 15, 20 villes où il y a des barbouillages. Il faudrait bien qu'il y ait des réponses et policières et judiciaires. Le propre, à notre sens, du mode d'action que nous avons choisi, c'est qu'il fait boule de neige, mine de rien. Et qu'un jour, grâce à l'opinion publique et les médias, on aura évocation de quelque chose qui intéresse l'ensemble de l'opinion publique. Donc pour nous, le procès de Montpellier ne peut pas être un procès isolé, c'est le premier procès, quand auront lieu les autres, ou, on ne peut pas encore vous répondre, mais certainement qu'il y en aura lieu, parce qu'il faut bien comprendre que nous nous attaquons, non pas simplement à des afficheurs, mais nous attaquons à un système économique, en réalité, qui ne supportera pas que les affiches soient réduites à cette dimension-là et que l'idéologie publicitaire soit ainsi piétinée. Et donc, nous sommes en face de forces colossales, de forces mondaines, de forces financières, de forces capitalistes qui vont pas nous louper. Elles ne peuvent pas nous louper. Et nous, ben, nous verrons ce que nous faisons.
Les gens qui viennent assister aux actions et d'où ils viennent, comment ils sont au courant?
Pour l'instant, les personnes qui sont venues étaient des personnes qui ont été prévenues par l'annonce de l'action et qui se sont manifestées pour connaître le lieu. C'est-à-dire que c'était un processus interactif où on annonçait qu'il y avait une action. Mais pour connaître le lieu, il fallait qu'elle se montre intéressée et se manifeste. Donc c'était une portée assez limitée, puisque ça ne pouvait toucher qu'une première sphère de personnes, un premier cercle, les autres personnes ne pouvant pas transmettre l'information du lieu à l'avance. Donc ça s'est passé principalement par des relais de sites, par du bouche à oreille, par donc du contact d'amis, et du contact associatif. et également les personnes qui sont tombées par hasard sur l'action et qui se sont montrées intéressées, donc des passants, il y en a aussi. Donc c'est un petit peu, ça oscille entre hasard et connaissance directe et lointaine.
Mais je voudrais préciser tout de même qu'il y a des personnes de tous âges à nos actions. Ça va de 6 mois à
81
ans, pour l'instant, à Paris en tout cas.
Montpellier, c'est sur le même modèle. Donc c'est des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce phénomène. Et donc nous avons des parents qui viennent accompagner leurs enfants jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées, des étudiants, des travailleurs, donc voilà. Voilà, des retraités. Il y a vraiment, vraiment une diversité. Des chauffeurs de bus. Dernière action, le bus s'est arrêté au niveau de notre panneau pour regarder. Ah oui. Bon, il n'y avait que deux personnes dedans, mais c'était deux personnes de plus. Donc voilà, c'est vraiment... on brasse pas toute la population, mais on n'est pas une bande de jeunes de 24, 25 ans, 26 ans. Voilà.
On a soif.
Voilà, peut-être la dernière question, et puis nous plions boutique, et on se retrouve pour boire un peu ensemble dehors. Il n'y a pas de dernière question ?
Ben, c'était peut-être celle-là.
Vous pouvez prendre sur la table cette brochure sur la désobéissance civile, qui est très intéressante, surtout si vous faites des articles au moment du procès du 27 juin. Elle est gratuite, et elle est faite par le centre de ressources de l'environnement de Toulouse. Elle est sur la table, tout ce qui est sur la table est à votre disposition, et c'est gratuit, aujourd'hui seulement.
Merci à tous, et puis moi j'ai soif. Donc,
voilà, donc nous pillons vite, et on se retrouve dehors, à l'extérieur de la maison.